Actu SF, les podcasts.
Alors, on va commencer cette table ronde un petit peu particulière parce qu'on va, on va pas énormément parler des livres, mais plutôt des petits trucs qui nous permettent de les obtenir, nous les lecteurs. Et donc, pour en parler, on a Marie Caillé qui est là, Gabriel Katz et Lionel Davoust. Voilà. Alors, l'idée, elle a démarré avec la boîte à doutes de Marie Caillé. Donc, qui va nous expliquer ensuite de quoi il s'agit. Donc, qui aide à l'écriture, hein, qui fait pousser, qui est un petit moyen qui a été très intéressant pour différents écrivains, professionnels ou pas, pour se mettre à travailler l'écriture. Lionel, lui, ça fait un moment qu'il travaille sur l'aide à l'écriture, puisqu'il s'occupe de la masterclass déjà des Imaginales le mercredi. Donc, il y en a peut-être certains qui étaient là ce mercredi. Et puis, son site, c'est une vraie mine. On a plein de logiciels d'aide à l'écriture, beaucoup de réflexions sur comment ça fonctionne au quotidien, avec des PowerPoint accessibles et tout ça de façon très, très légère, très agréable. Et puis, un podcast qui fait avec Mélanie Fazi et Laurent Genefort des petites séquences très courtes, hein, sur des sujets bien précis. Et du coup, tous les trois, ils se passent la parole de manière très naturelle. Je vous conseille vraiment de les écouter. C'est très plaisant pour avancer, pareil, hein, pour essayer de comprendre comment ça se bidouille, un roman. Voilà. Et alors, Gabriel Katz, lui, il est là parce que... il fait des milliers de choses. Alors, je ne sais pas ce qu'il voudra nous dire, nous révéler exactement, mais c'est un mystère de savoir comment il réussit à faire tout ça. Donc, on va essayer d'en obtenir un peu plus. Donc, on va commencer. Magnéto, Serge ? Avec la boîte à doutes. Marie, tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Donc, sur l'écran, vous voyez le visuel et puis après la petite méthode, voilà, mais qui n'est pas entière, donc tu peux y aller.
Alors, la boîte à doutes, c'est un système que j'ai mis en place il y a quelques romans parce que je voulais trouver le moyen d'écrire de façon plus efficace tout en gardant une trace des interrogations qu'on a souvent quand on écrit. En fait, je me suis rendu compte que quand j'écris, je suis très souvent sujette aux doutes et que très souvent, ça a tendance à me freiner. Et du coup, je me suis posé la question de comment pouvoir me servir de ces doutes-là, tout en continuant à écrire en même temps. Et du coup, j'ai eu l'idée de la boîte à doutes. En fait, c'est une sorte d'annexe au roman que j'alimente au fur et à mesure de l'écriture. Par exemple, dès que j'ai un doute sur le développement de l'histoire, sur la caractérisation d'un personnage, sur un élément de surprise. Et en fait, ça me permet d'en garder une trace et de pouvoir continuer à écrire en même temps. Et c'est une méthode qui est très utile et qui est assez pratique à mettre en place avec la méthode de Stephen King. C'est la méthode porte ouverte et porte fermée. En fait, il conseille d'écrire tout d'abord son roman d'une seule traite, sans se laisser freiner par les doutes. Vraiment, le but, c'est de finir. Et ensuite, c'est la méthode porte ouverte, où en fait on bétalise, c'est-à-dire qu'on relie en détail les chapitres, on annote, on voit les passages à améliorer, etc. Donc, du coup, j'ai fait une sorte de combinaison de ces deux aspects-là et pour avoir la boîte à doutes, il peut avoir pas mal d'aspects différents. Ça peut être vraiment une boîte physique, ça peut être un document Word, ça peut être un carnet. Et donc, voilà.
Merci. Lionel, alors toi, parmi tous les trucs que tu as développés, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus du podcast ? Comment est-ce que c'est né ? Comment c'est apparu cette idée de faire ça ensemble ?
Alors donc le podcast qui s'appelle Procrastination, parce que c'est ce que les écrivains font de mieux en général, c'est né tout simplement à la base d'un podcast américain qui s'appelle Writing Excuses, qui est porté par Brandon Sanderson, avec d'autres auteurs, il a une équipe, mais en gros c'est lui le porteur de projet. Et Writing Excuses, très simplement, en fait, on a repris la formule parce que voilà, pendant des années, j'ai écouté Writing Excuses, je me disais, c'est quand même vachement bien, ce serait bien que ça existe en français. Puis au bout de 2 ans, j'ai fait, bon, bah, si je veux que ça existe en français, il va peut-être falloir qu'on s'y colle. Et on a eu, voilà, c'est aussi né, donc voilà, on n'a aucune affiliation avec Writing Excuses, on a juste repris la formule parce que 15 minutes sur un sujet, avec des auteurs d'horizons différents, ça semblait une bonne façon de transmettre un peu de la connaissance sur l'écriture, mais pas trop long pour pas avoir un podcast d'une heure et demie toutes les semaines, parce que voilà, le temps est précieux. Beaucoup de gens ont un travail à côté ou écrivent en essayant leur premier roman en ayant un boulot à côté parce qu'il faut bien manger. Et le temps est déjà précieux, donc un truc d'une heure et demie, on s'était dit que c'était pas possible. Et c'est aussi né avec le soutien de Elbakin, du site elbakin.net, qui s'occupe de la diffusion, de la mise en ligne et tout, etc. Parce qu'on a tous beaucoup de boulot et que heureusement qu'ils le font, parce que sans ce soutien logistique-là de com, de promotion et d'hébergement, Procrastination n'existerait clairement pas, parce qu'on n'aurait pas le temps de s'occuper de ça. Et puis c'est hyper barbant. Et eux, ils ont la plateforme pour le faire, ils le font très très bien, et le font mieux que ce que n'importe lequel d'entre nous le ferait. Parce qu'ils ont plein de podcasts qui sont vachement intéressants dehors d'une autre, hein, que je vous recommande très vivement d'aller voir, sur le genre, sur l'imaginaire, etc., de tailles diverses. Donc ils avaient la plateforme pour le diffuser, en fait. Donc voilà, l'idée, c'était d'avoir, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir Laurent et Mélanie, j'aurais dit, j'ai une idée déraisonnable, est-ce que vous voulez jouer avec moi ? Et ils ont dit oui. Et ça m'a fait très plaisir, parce que c'est en plus d'être des auteurs que j'estime beaucoup et on s'estime mutuellement, en plus c'est des copains, donc ça permettait d'avoir une interaction plus détendue. Et en plus, on fait des trucs complètement différents. Laurent fait plutôt de la SF, Mélanie fait plutôt du fantastique en nouvelle, et moi je fais plutôt de la fantasy. Et on a des manières très différentes d'aborder le truc. Donc l'idée, c'était aussi justement pas de dire, alors c'est comme ça qu'il faut faire, mais justement de dire, moi je fais comme ça, mais mon copain en face, il fait complètement différemment. Donc vous, auditeurs qui écoutez, voilà deux manières de faire, à vous de trouver un moyen terme ou d'inventer la vôtre, parce que apprendre à écrire, c'est apprendre à se connaître avant toute chose.
Merci. Alors du coup, on a dans l'intitulé La boîte à doutes, le gueuloir si on veut, hein, pour exprimer, parler à voix haute. Et donc la relaxation tantrique, c'est toi, Gabriel, qui fais de la relaxation tantrique ?
Ah, c'est beau ça. Oui, alors je fais la relaxation tantrique. En fait, je ne peux pas écrire sans. Donc si je n'ai pas fait ma relaxation tantrique à la base, c'est fini pour moi. Donc il y a une méthode terrible pour la faire que je ne dévoilerai pas ici, parce que quand même, il y a des jeunes, je ne sais pas s'il y a des jeunes même s'il n'y en avait pas. À la base, en fait, pour tout dire, j'ai aussi une boîte à doutes. Je ne savais même pas que c'était déposé. Je suis désolé, il faut que je te donne des sous. Mais ma boîte à doutes, elle s'appelle Idée, c'est un doc word. Et à la base, en fait, pour l'alimenter, je mets tout ce que je pense mettre dans un livre. Sur le coup, j'en suis très content. Et je balance. Mes idées viennent pratiquement exclusivement sous ma douche. Relaxation tantrique, tout ça. Donc sous la douche, je n'ai pas de quoi noter forcément, donc ça m'assert plus ou moins selon le chauffe-eau. Et une fois que je sors, je jette ça dans la boîte à idées, justement, et je suis tout content. Et au bout d'un moment, je commence à écrire mon livre en fonction de ce qu'il y a dans la boîte à idées, donc toutes les idées qui ont été jetées. J'oublie des choses ou je rajoute des choses au fur et à mesure, ce qui fait qu'après, quand je compare le livre avec la boîte à idées, je n'ai que des regrets, en me disant « merde, j'ai oublié ça ». Ou « Ah, il devait mourir », etc., etc. Mais bon, c'est une technique comme une autre qui marche plus ou moins, qui consiste vraiment à jeter tout ce qu'on a dans un doc. Et surtout, en fait, à désacraliser. Ça désacralise beaucoup la mécanique d'écriture quand on commence, ce qui n'est pas vraiment mon cas. C'est-à-dire qu'au début, un écrivain débutant face à un bouquin, il a l'impression d'être devant une montagne. Il se dit « Ah là là, mon Dieu, je m'attaque à la littérature, tout ça, tout ça ». En fait, c'est que de l'amusement. Et le fait de jeter ses idées sur un doc comme ça en disant « Bah voilà, une fois que j'ai fait ma relaxation tantrique, je peux jeter mes idées et mettre tout ce que j'ai envie de mettre dans mon bouquin parce que je m'amuse et que le public aime ou n'aime pas, on verra bien. » Ça désacralise parfaitement. Donc, au moment où on commence à écrire, on n'a plus qu'à puiser là-dedans en disant « Voilà, moi, ce qui m'amusait, c'est mettre une histoire d'un mec qui fait ça, avec un méchant qui est comme ça, avec je ne sais pas quoi. » On replonge dans la boîte à idées en disant « Tiens, j'ai rajouté telle idée. » C'est totalement ludique, en fait, la mécanique d'écriture. Donc, il y a un moment, pour les gens qui veulent écrire, et Dieu sait qu'il y en a, où la trouille de se confronter à la grande littérature en disant « je ne suis pas Victor Hugo », on laisse tomber en fait. Et on se dit « je vais m'amuser, je vais coller toutes les idées du monde dans mon petit doc et je vais en faire un bouquin ». En gros, c'est ça. Quant à la relaxation tantrique, encore une fois, je ne donnerai pas de détails, mais c'est hyper croustillant. Je ferai un blog ou un truc là-dessus, je ferai payer l'accès, enfin bref, voilà.
Merci. Alors, j'avais choisi, parce que ça se développe pas mal en ce moment, quelques images de bullet journal. Je ne sais pas si vous les voyez. Ouais, alors j'ai piqué des photos à Liz Steven, qui est une autrice aussi, qui était là l'année dernière, qui reviendra peut-être l'année prochaine. Et elle a fait un truc hyper propre avec plein de photos, des images. Est-ce que vous avez des carnets, ou est-ce que c'est exclusivement sur informatique ou une petite boîte, ou est-ce que vous êtes allé un petit peu vers ce mode-là de boîte à idées, plus jolie, propre, un petit carnet, ou c'est vraiment le bordel?
Moi, je suis très multi-support, en fait, et je suis assez d'accord avec ce que dit Gabriel. C'est que, par exemple, ta boîte à idées, c'est vraiment une façon de désacraliser. Et pour moi, la boîte à doutes, c'est à peu près la même chose. Et j'ai une rubrique, moi, j'ai un bullet journal aussi. Et j'ai une rubrique où je mets chaque jour ce que j'écris, par exemple. Je mets le nombre de signes. Et rien que ce fait-là, en fait, avant, je fonctionnais vraiment. En fait, moi, je ne le faisais jamais avant. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais hyper exigeante avec ce que j'écrivais, et que pour moi, un chapitre n'existait pas tant que je ne l'avais pas réécrit 4 fois et que je m'étais dit, c'est bon, il est validé, il est légitime, en fait. Et finalement, c'était très démotivant, parce que j'avais vraiment l'impression que j'écrivais mon roman, il fallait que je le recommence encore une fois, que je fasse une version 3, une version 4. Et finalement, j'étais assez lente à écrire, et c'était assez démotivant. Et du coup, j'ai eu l'idée de cette boîte à doutes-là, qui est venu avec du coup la méthode porte fermée. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que le fait d'écrire comme ça, de se dire c'est pas grave, j'y vais, je fais mon premier jet, et c'est très libérateur, parce qu'on se rend compte que oui, effectivement, c'est de l'amusement. Et puis le fait de pas se mettre trop d'exigences, de pas se mettre trop de pression, finalement, ça rend le texte pas tellement différent d'un premier brouillon où on se dit va falloir que je le relise de façon hyper exigeante, etc. Et du coup, le fait de marquer le nombre de signes que j'écris dans le bullet journal, ça me donne vraiment l'impression d'avoir une base, et que le travail progresse. Et surtout qu'à la fin du mois, j'ai écrit tout ça, c'est quantifiable, ça fait une base.
Et vous faites des carnets aussi, Gabriel, Lionel?
Alors déjà, spéciale dédicace à Samantha Bailly, qui poste des super photos de ses boîtes. Elle a des boîtes hyper classe, belles et tout, avec des carnets magnifiques dedans qui datent de son enfance. Hyper, c'est beau, c'est doré et tout. J'adorerais avoir ça. Bon, moi, je suis un peu le bordel incarné. Donc du coup, au niveau de... J'ai plein de DocWords. J'ai des milliards de DocWords qui s'appellent pratiquement tous idées, ce qui est assez sympa. Idée 1, idée 2, idée 3. Au bout d'un moment, tu sais plus où t'en es. C'est balancé dans un autre dossier qui s'appelle idée, etc., etc. Donc j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Sur le coup, je crois savoir où sont les choses, et après, je ne sais plus. Il m'est arrivé de perdre un livre ou de perdre une trame carrément, en me disant « mais merde, qu'est-ce que j'ai fait de ça ? J'avais une bonne idée, mais où est-ce qu'elle est ?» Donc ça peut être un peu déstructuré tout ça, ça dépend vraiment des gens. J'ai mon téléphone qui me sert de support aussi, et dans le métro, tu as une très bonne idée. « Ah, je vais noter le truc », ou alors essayer de dicter, ce qui est atroce parce que ça dicte n'importe quoi. Il y a le T9 qui s'en mêle et du coup, bon, on relit, ça n'a juste aucun sens. Donc j'ai ça aussi, j'ai essayé plein de trucs, j'ai même essayé d'appeler des potes en leur disant « Attends, j'ai une bonne idée », en disant « le type va retenir ». Donc bon, il y a vraiment façon et façon de jeter son truc. L'appel à des potes, c'est anecdotique, mais pas tant que ça, parce que souvent ça rebondit. C'est-à-dire qu'il m'arrive d'appeler des potes qui sont les potes du petit milieu d'auteurs qu'on s'est fait, etc., en disant « voilà, j'ai ce truc-là, tu dis quoi ?» Il me dit « ouais, c'est chiant, c'est bien, c'est intéressant, ça ne l'est pas ». Ça rebondit un peu, ça fait un peu de ping-pong, ça donne un peu une info, à savoir est-ce qu'une idée est bonne et sur quoi on pourrait partir. C'est très, très utile. Et après, et ça permet aussi de ne pas complètement se tromper sur ce qu'on fait, parce qu'on a le nez dans le guidon. Quand on a des idées, on les trouve soit très bonnes alors qu'elles ne le sont pas, soit l'inverse. Et pour donner un exemple concret, Eternia, qui est mon plus combienième, troisième cycle ou un truc comme ça, plus je l'écrivais et plus je le trouvais pourri. Mais vraiment pourri. Je me dis, ce bouquin, mais il est pourri. Il est ni fait ni à faire, au point qu'on lui avait donné un nom avec nos potes. On avait appelé ça Pourriae, parce qu'il y avait AE, Eternia. Voilà. C'était son nom de code. J'ai dit, putain, Pourriae, c'est vraiment une pourriture. Il a super bien marché. Et en fait, heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils m'ont dit, non, pas Pourriae du tout, c'est bien, etc. Ils m'ont aiguillé par moments, parce qu'il y avait des endroits qui n'étaient pas terribles. Mais ça permet effectivement de se reposer sur quelqu'un qui a... Alors, soit c'est des bêta-lecteurs, soit c'est des amis qui donnent juste un avis. Ça permet un peu de sortir de soi en disant « je suis bien mignon avec ma boucle d'idées, etc. » Mais à un moment, il faut que j'en sorte pour soumettre à quelqu'un qui a un avis qui est bon, qui est mauvais, en tout cas qui va m'aiguiller. Et ça m'a permis de sortir le fameux Eternia, sinon il ne serait jamais sorti de sa vie.
Bah, du coup, Lionel, toi, bon, il y avait la question des carnets, mais en fait, là, on dérive sur les copains qui aident. Tu fais les appels à un ami aussi?
Oui, exactement. Je prends le 50-50 aussi. Donc le retour, je pense qu'on a tous des bêta lecteurs. Donc pour ceux qui savent pas, le bêta lecteur, en gros, ça, le terme, c'est pas des lecteurs qui sont bêta. Hein. C'est le ouais, on essaie d'en choisir qui ne sont pas trop bêta. Ça vient de l'industrie informatique, et la version alpha et la version bêta. La version bêta, c'est celle qu'on a poli le plus possible, mais dont on espère que des gens vont venir la tester et nous dire là ça va pas, là c'est pourri, là ça plante, etc. Donc c'est la meilleure version possible, et le bêta lecteur, en gros, c'est la personne qui va nous aider à relire le bouquin, nous faire des commentaires circonstanciés, qu'on espère productifs, qui va éventuellement, on l'espère aussi, pas forcément nous dire que c'est pourri de A à Z, mais si c'est ça, c'est la vie. Et de manière à pouvoir éventuellement réécrire le truc pour après le soumettre à l'éditeur, etc. Donc oui, mais moi j'ai un côté très très secret. J'arrive pas, en fait, le regard extérieur. Après ça dépend, hein, chacun sa sensibilité, mais je trouve que le regard extérieur, ça peut être vachement dangereux en fait. Quand on est en train d'élaborer un bouquin, qu'on a des idées, fréquemment l'idée, on a besoin de la fouiller pour vraiment la définir et la comprendre et comprendre ce que c'est en fait pour soi et pour son bouquin et son histoire. Et en parler trop vite, le faire lire trop vite, ça peut être destructeur parce qu'on va avoir un retour sur quelque chose qui n'était pas formé. Alors il y a des gens qui ont besoin de ça. Hein. Il y a plein d'auteurs qui se construisent sur Wattpad en balançant des chapitres avec des premiers jets très, très, très bruts, et avoir des retours là-dessus, ça les aide vachement. Moi, je sais que c'est la paralysie totale si je fais ça, et que je fais jamais rien lire tant que je n'ai pas moi-même fait mes relectures et mes corrections. Parce que j'ai envie de pouvoir fournir le meilleur jet possible et qu'après on puisse me faire un retour, qu'on puisse m'aider à aller plus loin. Et surtout parce que si je. Voilà, donc si je balance ça dans l'éther, l'envie d'avoir un retour très vite, c'est compréhensible. Mais attention à ce que ça détruise pas, à ce que ça détruise pas le bouquin, ça détruise pas la matière brute qu'on a besoin de creuser et de façonner encore. Et attention aussi à ce que, parce que ça se voit aussi des fois, est-ce que, parce que c'est du vécu, hein, est-ce que ce soit pas, j'écris un truc, je fais, ah, je sais pas si c'est vraiment, ah, je vais le faire lire à mes copains, comme ça ils vont me dire que c'est bien. Et le résultat, c'est soit ils me disent que c'est bien, auquel cas je fais, non, mais ils ont pas de goût, je savais bien moi que c'était pourri. Ou alors ils me disent que c'est pourri et ça me fait du mal parce que je voulais qu'ils me disent que c'était bien, bordel. Donc voilà. Après, tout le monde fonctionne différemment, mais je pense que global, parce que j'ai vu aussi des jeunes auteurs un peu se faire détruire par ça. L'écriture, c'est une affaire de patience, c'est une affaire de temps, c'est extrêmement long pour écrire un bouquin, c'est long pour être lu et c'est long pour mûrir en tant qu'auteur. Et donc, premier truc que j'aurais tendance à dire, c'est patience. Je vois beaucoup sur les forums, voilà, des jeunes auteurs qui disent j'ai pas de retour au bout de 3 mois, c'est un scandale. Les éditeurs, si vous verriez la quantité de manuscrits qu'ils reçoivent, j'ai un grand éditeur de mes amis, puis je passe le crachoir après, mais c'est juste pour dire le truc. Vous imaginez voilà, une table à peu près qui fait voilà, juste une table, mais qui fait la moitié de la largeur de la scène, là. J'étais chez un éditeur indépendant de SF de mes amis. Et je vois derrière le bureau d'une des responsables éditoriales une table comme ça avec à peu près 7 hauteurs de manuscrits, quoi. Et je fais, oh la vache, vous avez reçu beaucoup de trucs ces derniers temps. Elle me regarde hyper naturelle, elle me fait, ah non, ça c'est les bouquins que mes assistants m'ont signalé comme étant intéressants à ce que je regarde. Donc voilà, donc patience, patience par pitié.
À ce sujet-là, j'ai travaillé il y a longues années à écrire les bouquins des autres. On dit plus nègre aujourd'hui, on dit écrivain de quelque chose, prête-plume, pardon, j'étais donc prête-plume, dans des grosses maisons rive gauche, hein, les trucs genre Plon, Gallimard, Grasset, machin, etc. Et le volume des manuscrits qui étaient reçus par la poste, bon, je les voyais arriver, etc. On avait même essayé de créer un comité de lecture à un moment qui n'a pas de marché parce qu'il y en avait trop. C'était de l'ordre de 250 par semaine. Et 250 par semaine, effectivement, le type qui a mis toutes ses tripes dedans, il se dit, oh là là, mon Dieu, on m'a pas répondu, mais 250 par semaine. Et il y a quoi? Il y a 2 personnes qui lisent. Enfin, qui lisent. Qui feuillettent et qui voient s'il faut lire. Mais bon, voilà, c'est pas évident.
Et toi, Marie, alors, tu disais, chacun dit, moi, j'en parle aux amis. T'en parles aussi aux amis, toi ou...
Moi, je n'ai pas vraiment de bêta lecteur, en fait. Je m'améliore là-dessus, mais en fait, je suis un peu comme ce que dit Lionel, c'est que quand j'ai une idée, j'ai vraiment besoin d'être toute seule avec cette idée-là, en fait, de la mettre un peu sous chrysalide et d'aller vraiment de l'écrire et d'aller jusqu'au bout de là où je pense que je peux aller, avant de la faire lire à quelqu'un d'autre. Après, bon, je suis en train d'un peu de nuancer cette vision-là, parce que c'est vrai que c'est bien des fois d'avoir des avis juste sur le pitch ou... Mais j'avoue que j'aime bien quand même travailler toute seule, ou des fois j'écris aussi pas mal pour les très jeunes, pour les 8 jusqu'à 12 ans. Et en fait, j'ai pas de bêta lecteur, parce que c'est juste des délais très courts. Donc j'ai un mois, deux mois pour l'écrire. Donc c'est juste pas possible de faire lire à quelqu'un, donc c'est directement avec l'éditrice.
Voilà. Alors du coup, bon, voilà, vous avez des façons différentes de fonctionner. Est-ce que ça a évolué dans le temps? Parce que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous avez un petit peu de bouteille et que c'est intéressant de voir ce que vous avez essayé, testé. Il y a des choses que vous avez laissé tomber ou des trucs que vous dites « j'aimerais bien tester ce qu'un copain m'a dit comme méthode ».
Bah moi, j'ai un peu amélioré, enfin modifié ma façon de préparer un roman quand j'ai lu l'anatomie du scénario de Truby, qui est très intéressant, bon, qui est très technique, et je pense qu'il ne faut pas vraiment le lire comme un guide où il faut cacher toutes les cases, mais qui donne des très bonnes bases. Par exemple, quand on commence à réfléchir à une histoire, à établir la prémisse, c'est-à-dire vraiment le noyau de l'histoire, de quoi ça va parler. Et rien que le fait de poser ça, ça dure deux lignes, ça donne vraiment... la direction à suivre. Et ça manquait un peu parce que c'était plus nébuleux. Et du coup, j'avais plus de mal à vraiment cerner vers quoi je voulais aller. Et ça, déjà, ça m'a pas mal aidé à être plus efficace dans les thèmes que je voulais traiter.
Alors, en ce qui me concerne, j'avais écrit donc beaucoup de bouquins pour les autres et j'avais une technique qui était un petit peu froide, qui était une technique complètement réfléchie, c'est-à-dire qu'il y avait une réunion avec l'éditeur, l'attaché de presse, l'auteur, entre guillemets, etc. On voyait ce qu'il fallait faire et comment. J'avais une technique hyper carrée, tout ça. Au moment où j'ai commencé à écrire mes livres, je me suis aperçu que ça ne marche plus du tout comme ça, parce que ce que j'avais envie de faire, c'était quelque chose de très instinctif, c'est ce que j'avais en moi, etc. Donc j'ai dû changer de méthode. Ce n'est pas la méthode d'abattage, ça ne marche plus. Du coup... je me suis un peu freiné au début en me disant il faut que je fasse carré parce que j'ai l'habitude de faire carré. Et donc je faisais tout mon chemin de fer entre guillemets en me disant il va se passer ci, il va se passer ça. En fait, ça marchait pas du tout parce que je me bridais moi-même en me disant j'ai déjà tellement mon histoire qu'elle m'amuse plus. Donc j'ai très très vite laissé tomber. Ça a été c'est ça qui m'a fait en fait partir sur mes romans à moi, c'est de changer de méthode. Et la méthode que j'ai adoptée, c'est un peu une méthode de scénariste. Elle est un peu casse-gueule et elle est très marrante. C'est-à-dire que vous avez, c'est une image que j'utilise tout le temps, qui est hyper romantique, qui est l'image du squelette de poisson qu'on ramasse dans une poubelle. C'est-à-dire que vous avez la tête du poisson, la queue du poisson, les arêtes au milieu. Et c'est à peu près ce que j'ai. C'est-à-dire que je sais d'où je pars, je sais où je vais et je sais par quoi je vais passer. Donc c'est vraiment une méthode de scénariste. Je me dis, à un moment, il y a un twist qui est là, qui va se passer. Machin, il va mourir, on le sait. Truc, il va rencontrer un tel, etc. Et tout le reste, je le laisse flou, de sorte à broder sur cette espèce de squelette que j'ai. Donc, le résultat là-dedans, c'est que je ne me perds pas parce que j'ai mon squelette de poisson. Je mets petit à petit la chair dessus et les écailles. Mais en même temps, je m'amuse parce que je me dis, je ne sais pas très très bien ce que je vais faire entre les deux arêtes. Je me dis, ah tiens, tel personnage est intéressant, telle situation plus compliquée que j'aurais cru. Celui-là, il n'est pas terrible, je le court-circuite, etc. Ce qui fait qu'en fait, on peut se surprendre soi-même en cours d'écriture sans se perdre, sans perdre son histoire au passage en fait. C'est une gymnastique. Moi, elle me convient. Je sais qu'il y a des gens qui ne supporteraient pas du tout, qui aiment avoir un truc très, très structuré. Moi, j'ai une demi-structure, en fait.
Tu as une structure, toi, Daniel, Lionel, sur les romans ou
De moins en moins, en fait. Je crois que la quête de mon existence consiste à apprendre à me détendre, de manière générale.
C'est pour toi, la relaxation 33.
Exactement. Faut que je prenne je vais aller prendre des leçons dans la douche de Gabriel. Chez les auteurs en général, il y a plutôt, voilà, on dit souvent, il y a plutôt les auteurs qui sont scripturaux, c'est-à-dire qui écrivent un peu au fil de l'eau. Et en général, un bon révélateur d'un auteur scriptural, c'est si on lui dit, mais tu connais ta fin, il pousse des cris d'horreur en disant, mais surtout pas, sinon ça m'amuse plus. Il y a l'auteur structural, qui est plutôt, comme tu disais, où on structure, on a tendance un peu à architecturer à la base. Et à l'inverse, vous lui posez la question, est-ce que tu connais la fin de ton histoire? Il fait, bah oui, sinon comment je vais savoir où je vais? Donc, mais on n'est jamais 100% l'un ou 100% l'autre. Alors moi, alors on dit aussi jardinier ou architecte. Je vais faire une horrible traduction, mais les Américains, ils ont un joli terme pour scriptural. Ils disent discovery writer. auteur de découverte, en fait, qui découvre au fur et à mesure. Donc, moi, je suis été très structural. Je pense que ça c'est un reste des classes préparatoires mathématiques qui me disent attention, il faut que ce soit bien carré. Mais au fur et à mesure, notamment en passant au roman, en écrivant des bouquins de plus en plus gros, j'ai fini par me rendre compte que c'est tout bonnement impossible d'architecturer, et effectivement, c'est assez chiant, d'architecturer de manière globale. Donc, le truc vers lequel je vais de plus en plus, parce qu'en même temps, j'ai le problème que je n'arrive pas à écrire si je ne sais pas ce que je vais écrire un minimum. Donc, le truc sur lequel maintenant je gravite beaucoup plus, c'est, ça va être un horrible terme hyper chiant, mais d'essayer de cerner les fonctions génératrices de mon histoire. C'est-à-dire quelles sont les impulsions, qu'est-ce que veut tel personnage, à quoi ressemble mon monde et quelles sont les forces en présence. Et ça, j'ai besoin de connaître ça. Quelles sont les forces de mes personnages, quelles sont les forces de mon monde, quels sont ces différents courants qui parcourent le monde. Et si ça, par contre ça, j'ai besoin de le connaître absolument parfaitement, savoir comment un personnage fonctionne. Un bon truc pour savoir si un personnage fonctionne et que vous l'avez bien dans votre tête, c'est si vos personnages commencent à s'engueuler sous votre tête au feu rouge quand vous conduisez. En général, ça marche bien. Vos passagers vous regardent en disant « Ouh, je te parle ». Et si j'ai ça, j'ai les pièces et j'ai les courants, et après, j'ai plus qu'à les suivre. Et justement, c'est là que le fait de se détendre et de se faire confiance intervient, c'est-à-dire de se laisser aller. Parce qu'en fait, je ne sais pas votre expérience, moi, je me rends compte de plus en plus que je suis juste le véhicule pour un truc qui me dépasse, c'est mon inconscient. Et que, en fait, mon boulot consiste à essayer au maximum. Alors, j'ai intégré les structures narratives, etc. Mais maintenant que j'ai ça, essayer de le laisser au maximum et que ça travaille en tâche de fond et laisser parler un truc qui m'habite. Et c'est ça qui va vraiment écrire les bouquins. Et des fois, on fait des découvertes assez, assez phénoménales. Mais j'ai pu le faire qu'en apprenant à me faire confiance et en apprenant et en passant par la technique qu'on apprend toute sa vie. Hein, mais voilà.
Sur les personnages, déjà mon inconscient il est hyper tantrique, donc lui il joue pas. Mais sur les personnages, ce que dit Lionel est très très juste. En termes de scénario, c'est un truc qu'on appelle l'enjeu. C'est-à-dire qu'on prend un personnage et on dit c'est quoi son enjeu. Très souvent, les gens écrivent un petit peu au fil de la plume en se disant voilà, mon méchant il est méchant. S'il n'a pas de raison d'être méchant, s'il n'a pas un enjeu autre que d'être méchant, on l'a foiré le personnage. Donc quel que soit le personnage, le petit bonhomme qui va vous servir d'intro dans un chapitre, qui va vendre une vache au village, il a un enjeu, il a un truc derrière. Et c'est vraiment la question qu'il faut se poser tout au cours de l'écriture d'un roman. Si les personnages ont des enjeux qui sont ciblés et qui sont définis, on sort de la caricature. C'est-à-dire qu'on ne risque pas de tomber ni dans la caricature, ni dans le manichéisme. Il n'y a pas les bons, les gentils, les machins, les noirs, les blancs. On va vraiment tomber sur quelque chose d'un petit peu fouillé. C'est très très simple. Hein. C'est vraiment une mécanique élémentaire. C'est de se dire, bah, lui, il veut quoi? Il vient d'où? Et il fait quoi? Point.
Alors, j'avais une question par rapport à ce que tu disais, Lionel. C'est, tu dis, voilà, tu lâches un peu plus l'inconscient. Est-ce que tu crois que ça vient d'un changement de méthode, ou plutôt, tu as écrit beaucoup de romans. Donc finalement, quand tu arrives dans l'écriture, vous l'avez peut-être connu aussi, quand tu arrives, tu fais le premier, tu as des choses que tu veux dire vraiment. Et puis au fur et à mesure, les livres se font et peut-être que là, on est un peu plus libre parce que c'est bon, on a lâché un peu le gros du paquet et on prend peut-être aussi confiance, justement, comme tu disais, dans ce qu'on est capable de faire.
Je pense qu'il y a clairement de ça qui joue. Moi, c'est une image, je fais un peu de musique à côté et c'est un truc que j'ai mis du temps à piger en écriture, mais que bizarrement, j'avais pigé très vite. Enfin, j'avais formalisé. Je ne suis pas assez bon pour ça. J'avais formalisé très vite dans ma tête avec la musique, c'est que à un moment, il faut de la technique. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas jouer un solo qui déchire la guitare électrique si on n'a pas de la musculature dans les doigts. Hein. Un truc tout bête, si vous avez fait de la guitare, vous savez qu'on se fatigue bizarrement très très vite. Et donc, il y a cette technique à apprendre. Mais à un moment, quand on maîtrise la technique, je garde l'énergie de la guitare, il y a des tas de guitaristes solistes qui vous font des solos qui déchirent. Qu'est-ce que c'est chiant! C'est hyper virtuose, etc., mais ça dit rien, c'est juste de la technique. Et pour moi, l'idéal d'une technique artistique, c'est il faut passer par l'apprentissage de la technique, il faut la maîtriser, mais à un moment, il faut l'intégrer suffisamment pour qu'elle s'efface et qu'elle devienne une sorte de réflexe. C'est l'équivalent de la musculature dans les doigts. Pour arriver de l'autre côté de la galère, de la difficulté, même si c'est encore une fois l'apprentissage d'une vie, mais il y a un moment... On commence à l'avoir peut-être suffisamment fait pour que cette technique soit suffisamment intégrée et pour qu'elle puisse justement laisser passer les trucs qu'on a au fond de soi Et on a acquis suffisamment de maîtrise de l'instrument, que ce soit l'écriture ou la harpe, pour dire faire les choses, entre guillemets, naturellement. Parce qu'on a suffisamment acquis de technique et de bagage pour que ça soit canalisé. Voilà. Pour moi, c'est le but. Et je ne sais pas si j'y suis, mais en tout cas, j'ai l'impression que je m'en rapproche à chaque bouquin. Et je pense que voilà, c'est comme l'optimum chez Christopher Priest, dans le monde inverti. On ne l'atteint jamais, c'est le processus d'une vie. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a jamais deux bouquins qui s'écrivent pareil, entièrement pareil. Chaque bouquin nécessite sa propre méthode, sa propre truc. On se connaît un peu. Je pense qu'un des plus grands trucs, en fait, l'un des plus grands intérêts de commencer à avoir écrit un peu de bouquin et puis d'avoir, comme tu disais, un petit peu de bouteille, c'est simplement de se dire « Oh là là, je galère, mais bon, je l'ai déjà fait. » Donc, au bout d'un moment, on se finit par se dire « Bon, si j'ai réussi à le faire N fois, je vais peut-être arriver à le faire N plus 1. » Donc, c'est normal, ça fait partie du processus. Et je suis peut-être pas en train de jouer entièrement ma vie. J'ai galéré à tous les bouquins, je souffre à chaque fois, c'est normal.
Qu'est-ce que t'en penses, Marie ?
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et aussi, je trouve qu'en écrivant, enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, j'arrive à avoir plus de recul quand j'écris sur le moment. Parce que, par exemple, il y a des moments où, pareil, je me dis, je galère, je trouve ça super nul. Mais bon, bah, on continue pareil. Et au moment de la relecture, on se dit, ah, mais en fait, ce passage-là n'est pas si mal. Et c'est plutôt celui-là qui allait super bien, qui, en fait, est hyper bancal. Donc, du coup... Voilà, c'est l'avantage de passer de bouquin en bouquin, c'est qu'on a plus conscience de ses forces, on arrive peut-être plus à lâcher prise sur la technique. Et je suis d'accord qu'aucun bouquin s'écrit pareil. Moi, je suis une pure scripturale ou architecte, mais je me rends compte que j'ai beau vraiment planifier scène après scène. Alors, le premier tiers, ça va. Il y a toujours un moment où je me dis, mais en fait, là, ça ne va pas, c'est pas ce que je veux dire, ça ne sonne pas juste. Finalement, les fins ressemblent jamais à ce que j'ai prévu. Et puis, bah, c'est peut-être mieux comme ça, en fait. C'est plus vivant, en fait. On sent que le texte n'est pas soumis à un chemin de fer.
C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Marie. Il y a des moments où, en fait, il y a des scènes, par exemple, que je vais planifier à l'avance et qui me paraissent être des scènes très fortes. Je suis même impatient de les écrire. Je me dis, cette scène, elle va déchirer, c'est magnifique. Et j'attends, et j'attends, et j'attends, et je note des trucs dans ma boîte à idées, je prends ma douche et tout ça. Et au bout d'un moment, je finis par écrire la scène. Et c'est un grand moment, j'ai l'impression de me marier. Quoi. Et au final, je relis ma foutue scène, elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible, les dialogues tombent à plat, c'est et je me dis, mais merde, ma scène, super. Alors je la réécris, je réessaye, je la retourne. Et en fait, je m'aperçois qu'elle n'est juste pas bien. D'où le fameux squelette de poisson, je me dis, ok, là je suis entre deux arêtes, ce n'est pas une scène nécessaire, et bien ok, c'est pas du tout la scène de ma vie, je l'enlève ou je la change. Ça aussi, c'est un peu compliqué, se dire, voilà, ce que j'ai vraiment visualisé comme idéal, c'est merdique. Et à partir de là, je vais changer d'angle. Je n'ai pas peur de changer d'angle, je n'ai pas peur d'effacer. Ça, c'est le métier du scénariste, pour le coup. Le scénariste, vous avez un producteur au-dessus. Au-dessus du producteur, il y a un diffuseur. Au-dessus du diffuseur, il y a la chaîne. Au-dessus de la chaîne, il y a Dieu. Et chacun de ces gens-là vous dit, c'est pas bien refait, c'est pas bien refait. C'est une bonne formation, en fait. Donc, il y a un moment où, soi-même, on se dit, c'est pas bien refait. Et la fameuse scène historique qui ne marche pas, et bien parfois, soit elle dégage, soit elle change, soit elle est prise complètement sous un autre angle. Très honnêtement, le mieux, c'est de l'effacer complètement et de refaire. Parce que souvent, on se dit, non, je garde un peu la structure parce que ce n'est pas si mal. Et plus on retravaille sur la structure existante, plus on s'emmerde parce que c'est plat, c'est mauvais, on s'enfonce en fait. Donc, il faut refaire. Il faut refaire, il faut admettre que tout ce qu'on a prévu comme étant fantastique, ça ne l'est pas forcément. Et tout ce qu'on a prévu comme étant intermédiaire peut devenir majeur. Il faut se laisser porter par l'écriture, en fait.
Est-ce que tu parlais de Dieu et de... vas-y, si tu veux, je poserai ma question après. Tu l'as perdu, je suis désolée. Ouais, moi, je me demandais, parce que là, vous parlez de votre travail à vous, éventuellement avec des copains d'écriture. Après, quand c'est face à l'éditeur, est-ce que... le travail, il est déjà vraiment fait ou est-ce que avec l'éditeur, du coup, ça vous pousse encore dans des nouveaux trucs, des nouvelles techniques, peut-être ?
Je vais répondre parce que j'ai le micro. Je suis ce qu'on appelle un mauvais plan pour un éditeur. C'est-à-dire que toute ma vie en tant que scénariste, je refais. Je refais avec le sourire et quand TF1 vous dit quelque chose, effectivement. Donc le truc, c'est que l'écriture, c'est un vrai plaisir pour moi. C'est un plaisir profond. Et c'est vraiment un deal que j'ai passé avec mes éditeurs en disant vraiment, si le texte te plaît, c'est super, on l'édite. S'il ne te plaît pas, on en fait un autre. mais j'ai pas du tout envie de retravailler parce que tel truc te plaît pas. S'il y a des choses mal écrites, mal formulées ou pas compréhensibles, oui, bien sûr. Mais si c'est juste parce que l'éditeur pense que ce serait mieux comme ça, honnêtement, j'y vais pas, en fait. Donc, soit on le publie tel quel, et c'est super, pour l'instant, c'est ce qui m'est arrivé. Le jour où il y en a un qui me dira, bah, écoute, non, moi, j'aime pas, mais on en fera un autre, c'est pas grave. Mais je veux vraiment garder le côté plaisir dans le livre. J'ai pas du tout envie de rentrer après dans la mécanique une fois que moi, je me suis torturé moi-même avec un bouquin, repartir dans la même chose avec l'éditeur en disant, oui, bah, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on le change? Est-ce qu'on le change pas? Donc voilà, je sais que c'est pas toujours très apprécié des éditeurs, mais pour l'instant, je suis passé entre les mailles.
Moi, c'est un peu l'inverse de toi, c'est que en fait, j'adore écrire et j'adore retravailler mon texte. Et du coup, j'aime bien quand je peux travailler avec des éditeurs qui, justement, sont exigeants et poussent à vraiment à m'accompagner et à pousser le texte le plus loin possible. Parce que, par exemple, il y a des petits tics d'écriture dont je ne me rends pas compte. Ah oui, les mails, les regards, enfin, il y a des trucs, ça fait 8 ans que j'écris et ça fait 8 ans que je les ai toujours. Et du coup, j'aime bien quand il y a un éditeur qui réussit à pointer des tics ou des redondances et tout, parce que comme ça j'arrive à avoir un recul là-dessus. Et bah moi, c'est une étape que j'aime beaucoup, pouvoir retravailler avec un éditeur.
Lionel ?
Juste un mot sur la forme, je suis entièrement d'accord avec Marie, je parlais du fond, vraiment.
Ça, je pense qu'il y a aussi une question de métier. Moi, le retravail me dérange absolument pas, tant que ça va dans le sens du projet. Je pense qu'un bon éditeur, en tout cas ma définition d'un bon éditeur, les éditeurs avec qui j'ai plaisir à travailler, c'est que c'est des gens qui absolument ont absolument pas peur de te faire retravailler comme il faut, mais parce qu'ils ont... En fait, ils disent « j'ai pigé ton projet et je vais te montrer comment tu vas réussir à l'amener à la dimension supérieure et comment le servir au mieux. » Et quand on me demande, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais quand on me demande un retravail, je suis un peu comme toi, quand on me demande un retravail qui va à l'encontre de ce que j'ai essayé de faire, ma réaction c'est de dire, bon, visiblement, soit je me suis planté, soit ce n'est pas ta sensibilité. Alors si je me suis planté, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le projet soit plus clair? Mais si ce n'est pas ta sensibilité, je préfère que le truc ne sorte pas et que je dévoile et dévoyer le machin. Je préfère qu'on fasse autre chose, effectivement. Par contre, effectivement, aucun problème sur le retravail en détail, etc. J'ai une certaine chance, j'ai fait beaucoup de traductions, j'ai fait un peu de direction d'ouvrage, et ça m'a pas mal formé, je pense, dans mon cursus, à avoir un regard assez extérieur sur mon boulot. C'est-à-dire que quand je retravaille, je peux attaquer directement, parce qu'une fois que mon premier jet est terminé, je change complètement de fonctionnement, je me comporte comme si j'étais mon propre prête-plume, je reçois le manuscrit d'un jeune auteur un peu foutraque et plein de talent, mais très bordélique, et maintenant c'est mon travail de faire en sorte qu'il ait l'air intelligent. Et la terreur, c'est que je ne serai jamais crédité pour ce travail. Je pense que je donne des sueurs froides et en même temps des sourires avec des sueurs froides à mes éditeurs en même temps, c'est que j'ai un peu tendance à rendre très tard mes manuscrits parce que à ce stade maintenant, je sens quand ça va ou quand ça va pas, et il peut m'arriver, comme ça est arrivé récemment, d'appeler et de dire je sais que je dois te le rendre dans 5 jours, mais il faut vraiment que je réécrive toute la fin entièrement, il faut vraiment que je refasse 200 000 signes de plus. Donc il est blême, il fait écoute, il a la voix un petit peu, écoute, si tu penses que c'est important et que c'est bien pour le bouquin, vas-y, on te fait confiance. Et je dis non mais t'inquiète pas, je vais pas dormir et tout, je vais prendre du Red Bull, ça va marcher. Et effectivement, je rends les 200 000 signes 5 jours plus tard et il est content parce qu'il me dit non mais effectivement, t'avais raison, c'était mieux. Mais en attendant, pendant 5 jours, il se fait des cheveux, quoi. Moi, ça fait longtemps que c'est plus possible.
Ça tombe bien que tu parles de Red Bull. Si on revient à des petits trucs d'écrivain, comment vous faites? Parce qu'il y a des moments de coup de bourre, des moments... Qu'est-ce que vous faites?
Alors moi, depuis que l'écriture prend quand même une place assez importante dans ma vie professionnelle, eh bien, je fais ça de façon très simple, c'est que je travaille aux horaires d'entreprise. Donc voilà, je me pose même plus la question, en fait. Je sais juste que j'ai un délai ou que je me donne tel délai pour un projet. Donc je me dis par exemple, bon bah faut que je fasse 2 scènes aujourd'hui ou tant de signes. Et puis je me mets au travail, quoi. En fait, c'est plutôt une façon assez carrée de faire, mais qui permet de dégager beaucoup d'incertitudes et beaucoup de doutes qui en fait n'ont pas forcément lieu d'être. Et c'est pour ça que j'aime bien les deadlines, en fait, parce que c'est juste on dit bon bah il faut faire ça, donc quelle est la façon la plus efficace et la mieux de la faire, et puis bah voilà.
Moi, j'admire beaucoup, beaucoup ça. Je suis super admiratif. En fait, je suis un super-héros. Je pourrais me faire appeler Procrastinator. Le truc avec un grand P sur le truc. Le mec, il ne fait rien pendant 3 semaines alors qu'il a un vieux deadline. Et tout d'un coup, une semaine de folie. Jour, nuit, je ne dors plus. Je mets mon réveil au bout de 2 heures de sommeil. C'est des trucs de folie. J'accepte à peu près tout ce qu'on me propose parce qu'en indépendant, il faut bouffer. Le scénario prend énormément de temps. Les bouquins, je prends parce que je suis super content. Et les éditeurs disent « Ah, il a marché, on va faire un autre, c'est super, je signe, je signe. » Et après, je me retrouve avec des piles de trucs. Là, bon, c'est un exemple, mais cette nuit, par exemple, j'ai bossé jusqu'à 3 heures du mat. Je n'ai pas pu aller plus loin. J'aurais dû, mais parce que j'en prends trop. Et alors, la procrastination, bah, tu en parlais tout à l'heure, c'est vraiment le truc de l'écrivain. On a une profession qui permet d'aller au cinéma. C'est top. Donc, du coup, on se dit « Ouh là, il passe un machin. » Alors, pff, cinéma en semaine, il n'y a personne et tout, c'est trop bien. Le lendemain, on peut faire la même. Il y a toujours un pote avec qui aller déjeuner, etc. Et au bout d'un moment, tout d'un coup, j'ai le deadline qui me tombe sur les épaules. Et généralement, c'est genre 48 heures avant, quoi. Donc, je gagne du temps. Je dis, ah, attends, t'inquiète pas, dans une semaine, c'est bon. J'ai fait un petit peu, j'ai eu des trucs, etc. Et je travaille, mais comme un fou, comme un malade. J'ai jamais planté un livre, jamais planté un scénario. Donc, à un moment ou à un autre, j'y arrive. Et je crois que c'est le stress qui tient. Le stress me tient, il me pousse en fait derrière, comme ça, c'est un truc horrible. Un jour, ça débranchera d'un coup, je tomberai comme une masse. Mais pour l'instant, ça va. Et vraiment, j'admire la structure, tu vois, le fait de pouvoir être organisé, de pouvoir dire, voilà, je sais ce que je fais, à quel moment, comment je fournis et quand je fournis, c'est magnifique.
J'admire la capacité à travailler sous stress, parce que moi, franchement, ça me tétaniserait complètement, quoi. C'est des façons différentes de procéder, quoi. C'est comme pour les révisions, il y en a qui s'y prennent très à l'avance et d'autres qui font vraiment, d'autres qui le font pas aussi et d'autres qui font vraiment quand c'est dans le rouge, quoi.
Ouais, mais j'ai un peu le même problème, j'ai une maladie en termes biologiques, c'est une hypertrichose palmaire bilatérale, 2 énormes poils dans les mains. Et ouais, non, j'ai un peu. Donc, je me suis. Moi, je serais déjà mort. Moi, ça me tue terriblement. Et ça nuit au plaisir que je prends, en plus. Mais bon, je suis quand même un énorme procrastinateur. Donc, j'ai très, très bêtement, je suis allé regarder les méthodes de productivité modernes et tout, etc. J'ai découvert Getting Things Done et la méthode GTD. Et ça a changé ma vie. Et je bosse aux horaires de boulot aussi, à peu près. Sauf quand j'ai une deadline, auquel cas les horaires de boulot deviennent, tiens, c'est marrant, d'un seul coup j'ai 3 demi-journées dans ma journée, voire 4. Et puis en fait, au final, bah, je tiens, on peut bien travailler 7 jours dans la semaine, je veux dire, le week-end ça sert à rien, et les vacances non plus. Donc, en fait, j'ai plein de temps, en fait, finalement, si je regarde bien, attends, c'est bon, 16 heures de travail par jour ça marche aussi, je veux dire, c'est 3-8, 8 heures de sommeil large, tranquille. Finalement. Donc, ouais, mais j'essaye au maximum de combattre ça parce que au début, je me tenais vachement. Après, je pense chacun, t'as beaucoup plus de bouquins que moi, mais dans mon évolution, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à tenir. Donc, en fait, maintenant, j'essaie d'organiser toujours des deadlines parce que ça me motive et tout. Mais j'essaye de m'organiser maintenant de moins en moins avec un quota de signes par jour, même si à un moment, il faut quand même s'en imposer, mais plus avec un volume horaire par jour parce que voilà, je sais que. Je trouve de plus en plus, en tout cas j'ai vu ça en musique, et je pense que tu bosses en fait en vrai dans ta tête pendant que tu vas au cinéma et tout, parce que la créativité, ça se nourrit aussi des moments de repos où ça infuse. On peut pas, voilà, le proverbe chinois qui dit 9 femmes ne peuvent pas faire un enfant en un mois. La créativité, ça fonctionne un peu pareil. Je pense qu'il y a besoin de ces moments de repos. Et on ne peut pas se dire, ah bah tiens, comme ça m'est arrivé récemment, wow, là, j'ai été super productif, j'ai écrit une nouvelle, j'avais compté, parce que je compte un peu mon temps et ma productivité, j'avais écrit une nouvelle en 25 heures. Mais je l'avais écrite sur l'ensemble d'une semaine, et je n'aurais pas pu faire ça en 3 jours, parce qu'il y a eu les moments où ça a reposé, et où quand je suis revenu, mon cerveau était prêt, il avait travaillé en tâche de fond. Donc il y a ces moments de repos qui sont assez difficiles à quantifier, mais qui, je pense, sont nécessaires. Et ça me fait penser, donc Robert Sheckley, donc grand auteur de SF de l'âge d'or, il avait une méthode pour combattre la procrastination. Il se fixait, je ne sais plus, à écrire 2 ou 3 000 mots par jour. Et il se mettait devant la machine à écrire. Et si jamais il n'y avait rien qui lui venait, il tapait son nom en boucle. Robert Sheckley, Robert Sheckley, Robert Sheckley. Et il y a un moment, son cerveau lui disait, non, c'est bon, ta gueule. C'est beaucoup trop chiant. Je vais te donner un truc à écrire là, parce que ce n'est pas possible.
Il y a un mec qui a fait ça dans Shining, il a tué sa femme. Mais bon. Mais ce qui est très, ce qui est très traître, ce que dit Lionel est très vrai, mais alors ce qui est traître, c'est quand on prend du temps pour soi, mais qu'on n'en profite pas parce qu'on se dit il faut que je travaille. C'est un des syndromes de l'écrivain aussi. Ça. Je vais au cinéma, je regarde mon film, et pendant tout mon film, je me dis je dois rendre mon livre. Ils attendent, ça part à l'impression. Et je regarde un film, je suis un con, etc. Donc c'est, il vaudrait mieux en fait se dire voilà, ça c'est deux jours pour moi, je ne fais rien, je suis super content de rien faire, plutôt que de trimballer son stress. Mais encore une fois, le stress pousse.
Et c'est drôle que tu parles de la méthode de l'écrivain qui écrivait son nom, qui se forçait en fait à écrire son quota. Moi, j'ai réussi à trouver une façon de travailler sur ordinateur sans aller tout le temps sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'était vraiment, je perdais un temps fou. J'ai découvert une appli qui s'appelle Cold Turkey Writer, et en fait, qui permet de bloquer l'écran sur une page Word et de décider le temps d'écriture qu'on prend. Donc, ça peut être 25 minutes comme la méthode Pomodoro ou une demi-heure, etc. Donc, j'ai découvert ça. Bon, au début, je flippais un peu, mais je me suis dit, bon, je vais mettre 10 minutes. Et c'est magique parce qu'en fait, on n'a que cet écran. Et finalement, bah, le cerveau n'est pas parasité par Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux, la boîte mail et tout. Et bah, pour moi, c'était vraiment. Je pense que ça m'a rendu beaucoup plus productive et beaucoup plus efficace. Et du coup, bah, c'est une méthode que je vous conseille si vous êtes un peu comme moi et que vous avez tendance à aller de fenêtre en fenêtre.
Il y avait les trombones.
Pardon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en train de passer pour des névrosés terribles, tu sais. Alors moi, j'ai mon truc qui calcule ma page board, moi je vais au cinéma, je stresse, moi j'appelle ma mère en pleurant. On prend du plaisir à écrire aussi. Hein.
C'était toi qui avais trouvé les trois trombones
La méthode n'est pas de moi, mais je l'avais trouvé sur un des innombrables blogs de productivité, parce que c'est aussi une méthode hyper subtile de procrastiner, c'est procrastiner sur des méthodes pour moins procrastiner. Ça marche hyper bien. Et vous dites, non, mais ça va me permettre de travailler mieux demain. Et c'est un truc que j'avais trouvé, c'est la méthode des trois trombones. C'est en fait quand vous avez une habitude dont vous voulez vous défaire, mais c'est hyper dur, alors ça va avec arrêter de fumer, arrêter d'aller sur Facebook, etc. Vous prenez une boîte, vous mettez trois trombones dedans, ou quatre ou cinq en fonction de votre degré de névrose, et puis il y a une boîte vide de l'autre côté. Et le matin, vous vous dites, ok, ces trois trombones, ça représente mes trois checks Facebook de la journée. Et quand j'en fais un, je prends le trombone, je le mets de l'autre côté. Trois, ben, cinq ou dix.
Faut être honnête avec cette méthode.
Voilà, et ça aide pas mal. La méthode Pomodoro aussi, je trouve que ça aide vachement quand on a du mal à se mettre à écrire. Donc la méthode Pomodoro, c'est 25 minutes de travail à fond, 5 minutes de pause, 5 minutes de glande totale. Et on fait ça pendant par cycle, et quand on en a fait 4, on a droit à 20 minutes de pause plus longue. Et moi, j'ai écrit des bouquins entiers avec la méthode Pomodoro, et ça m'a sauvé la productivité quand d'autres trucs étaient compliqués. Maintenant, en fait... Il faut quand même dire que à notre ère moderne, on est aussi confronté au fait que on est distrait tout le temps par les notifications, les trucs comme ça. On a constamment, on est bombardé d'informations en permanence. C'est pour ça que la méthode GTD aussi m'a beaucoup aidé personnellement, parce que c'est comme un cours d'aïkido mental où j'ai une disturbance, j'ai un dérangement qui vient, une notification, etc. Comment je redirige cette énergie pour ne pas qu'elle me parasite et qu'elle reste en moi. Mais c'est une méthode de productivité. Hein. J'en fais un truc un peu mystique, mais c'est beaucoup plus...
Centrique.
Ouais. On y revient toujours. Et du coup, c'est plus. Et oui, voilà. Et en fait, du coup, il y a un bouquin qui s'appelle Deep Work, un bouquin qui avait pas mal fait de bruit aux États-Unis, où justement ça met en avant le fait que de nos jours, on a du mal, on le voit de plus en plus aussi chez les gamins, on a du mal à se concentrer longtemps sur quelque chose. Et lire, c'est le cas, écrire, c'est le même truc. Et moi, la méthode Pomodoro, ça a été, je me suis rendu compte, maintenant, j'ai plus besoin. Je suis capable de rester concentré 3, 4, 5 heures sur un truc, ce qui était devenu pas possible, en fait. Ce qui me faisait un peu peur. Et enfin, là, la méthode Pomodoro a été une vraie rééducation à me concentrer sur un truc et à me dire, c'est bon, je peux attendre 19 heures pour aller regarder des vidéos de chat sur YouTube.
Juste oublier la méthode d'aïkido parce que c'est l'esquive l'aïkido. Donc bon, faut pas esquiver, faut prendre le truc de front.
Du coup, peut-être pour terminer, parce que tu as évoqué maman ou le quotidien, faire
c'était
peur.
Une image, hein.
Non, mais au quotidien, avec les proches, parce que là, vous avez vos techniques et tout qui peuvent faire peur, éventuellement. Ils vous aident, vous les instrumentalisez pour qu'ils vous aident. Comment vous faites? Vous les évitez? Vous les enfermez?
Mes proches, en fait, c'est assez pratique. Ils augmentent mon stress en essayant de faire l'inverse. C'est super gentil. Hein. C'est du genre, mais tu sais, quand même, c'est pour quand ton bouquin? Ou bien, mais t'as encore pris un truc ? Non, je t'ai pas pris un truc. Donc en fait, ils empilent sur mon stress petit à petit. Et de temps en temps, ils te donnent une méthode que tu ne suis pas parce que c'est bien gentil. Donc, ils font un peu l'effet inverse. Donc, plus j'avance, plus mes proches s'inquiètent pour moi. Procrastinator, il vole tout seul. Hein. Il procrastine tranquille jusqu'au moment où il a peur. Mais tant qu'il procrastine, c'est vraiment un truc de super-héros. Je n'entends rien, je ne vois rien. Et au bout d'un moment, les proches te ramènent par terre en te disant « Voilà, c'est une catastrophe. » Donc, mes proches, ils me tirent vers le bas et Dieu sait qu'ils essayent de faire l'inverse.
Moi, c'est un peu... Un peu de vitesse, c'est soit je fais mon truc dans mon coin et je travaille, soit ils ont droit au déroulé de tous mes états d'âme ou de « Ah, j'ai une super idée » ou « Ah, bah faut voir que je réécrive tout », etc. Donc voilà, c'est une oreille attentive, on va dire, mais ça va, ils ne me stressent pas trop là-dessus.
Non, mais je suis un peu comme Gabriel et j'ai appris à reconnaître un motif, vraiment signal d'alarme, c'est on vient, la personne me dit « Et alors, t'en es où ?» Et ma réponse commence par « Non, mais... » Là, c'est le signal où je me dis « Mais c'est bien, heureusement. Et non, globalement, alors c'est en parlant de relaxation tantrique, ça va paraître, c'est dans le truc. Je médite quotidiennement. Et ça aide vachement. Ça m'a aidé vachement à calmer le jeu, à voir les trucs de l'extérieur et à mettre à bosser sans trop avoir peur. Non, en termes d'instrumentalisation des proches, ce qui est vachement rigolo, c'est de mettre en scène une scène de combat avec eux. C'est non, alors on dirait que je suis assis sur une chaise et que tu essaies de me tirer dessus, ça fait comment si jamais je tombe en arrière ? Aïe.
Vous faites vraiment ça, vous essayez des trucs. Paul Byrne, il se fait enterrer dans son jardin par ses enfants.
Bon, j'essaye des trucs, on a parlé de tantrisme, on va éviter de rentrer dans les détails, mais oui. Oui, j'essaie plein de trucs. C'est, voilà. Non, en fait, je n'essaie pas des trucs. J'ai eu une conf ici aux Imaginales il y a quelques années. Je ne lâcherai pas de nom parce que c'est un petit milieu. Et la question, c'était est-ce que vous documentez avant d'écrire vos scènes de combat, etc. Et il y a quelqu'un, donc je ne nommerai pas, qui a dit qu'il mettait dans son jardin des quartiers de porcs, des carcasses de porcs sur lesquels il frappait avec des épées médiévales pour sentir la chair, comme ça. Et tu sais, il me disait, ouais, ben, sinon un bouquin, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens, etc. J'étais assez frappé. Je disais, mais alors pour la magie, tu fais comment ? Donc bon, voilà, l'expérimentation, non pas plus que ça, honnêtement. C'est juste qu'on discute le coup autour d'un repas, mais ça s'arrête là.
T'as expérimenté des trucs bizarres, toi ?
Non, pas tant que ça. Moi, je me documente au besoin, mais non.
D'accord. Bon, on arrive au bout. Je pense qu'on pourra recommencer l'année prochaine parce qu'il y a encore plein de choses à vous demander, à mon avis. D'après ce qu'on a compris, relaxation tantrique, avoir des amis, avoir une boîte à doutes, plein de fichiers. Comment vous pouvez conclure ? Qu'est-ce qu'on fait le truc ? Bosser, avoir confiance,
Le truc, c'est s'amuser, honnêtement. C'est vraiment ça, c'est s'amuser. C'est se débarrasser de l'idée que la littérature est un truc sérieux. Ce n'est pas un truc sérieux. On a de la chance de vivre plus ou moins d'un métier qui est super passionnant, qui est super sympa. Et c'est que de l'amusement, c'est que du plaisir. Donc, il y a plein de galères qui suivent. Il y a plein de choses derrière. Mais honnêtement, le fait d'y prendre du plaisir et de ne pas considérer ça comme un truc gravissime, c'est vraiment la base des bases, quoi.
Merci beaucoup. Tu peux finir.
Le truc que je dirais, c'est effectivement, comme tu disais, quand on prend un bouquin, on se dit « je vais écrire un bouquin, c'est une montagne, comment est-ce que je vais faire pour ?» C'est vrai qu'un bouquin, c'est long, c'est compliqué. Il y a plein de trucs qui se passent dedans, il faut réussir à avancer. Moi, le truc que j'ai tendance à dire, c'est on peut essayer de prendre des raccourcis avec des techniques d'écriture et ça permet de le faire. Il n'y a pas d'autre et de meilleur apprentissage que de le faire, en fait. Et de le faire tous les jours. Parce que l'écriture et le contact avec un projet, le contact avec un univers et avec des personnages, c'est un muscle et ça se travaille quotidiennement. Et en fait, à mon humble avis, il vaut mieux prendre 5 minutes par jour pour écrire une phrase, pour juste noter une idée. Et même si on a des journées de dingue et qu'on n'a pas le temps, on peut toujours trouver 5 minutes. Si on est motivé, qu'on a envie de le faire, on peut bien trouver 5 minutes dans la journée. Plutôt que de se dire, non mais je peux pas écrire parce que, c'est une bonne technique de procrastination, je peux pas écrire parce qu'il me faut une longue plage, et puis il me faut monter, et puis il faut mon chat, et il faut mon ordinateur, et il faut qu'il fasse jour, et j'ai pas ma musique, et ben, bref. Les raisons peuvent aller, voilà. Le cœur du truc, c'est juste le faire, et le faire tous les jours, 5 minutes par jour, c'est comme se mettre à l'exercice. Au début ça fait mal, et puis la séance quotidienne finit par créer des bénéfices cumulés. Et au bout d'un moment, on n'a plus peur d'ouvrir son fichier, parce que de toute façon, on le fait tous les jours, donc on n'a pas peur de ce qu'on va trouver dedans, puisqu'on le sait. Donc voilà. Donc, et puis, c'est ça qui permet d'apprendre, c'est se confronter à la difficulté, galérer dessus le cas échéant, mais arriver à la vaincre, ou si on n'arrive pas, à passer sur un autre projet, mais continuer à en faire. Quoi.
Marie, pardon, Gabriel, du coup.
Oui, je voulais juste signaler en fait qu'en sortant, on a fait à trois un bouquin de relaxation tantrique qui est à vendre à un prix très modique à la sortie avec des petits gadgets, c'est magnifique. Voilà.
Moi, pour conclure, je suis très d'accord avec ce que disent Gabriel et Lionel. C'est qu'effectivement, en fait, quand on galère sur un projet, il faut toujours se rappeler pourquoi on veut l'écrire et pourquoi ça nous passionne de l'écrire. Et il y a une phrase que j'aime bien de Stephen King qui dit que pour devenir un bon écrivain, il y a deux méthodes et il n'y a aucun moyen de passer à côté. C'est il faut beaucoup écrire et beaucoup lire. Voilà. Et c'est un des meilleurs conseils que j'ai pu lire.
Et beaucoup lire, beaucoup écrire. Merci énormément à tous les trois.